La montagne, dans ce passage qu'on va voir ce matin, hein, qui est tiré donc de Matthieu 5, versets 10 à 12, il nous est parlé, Jésus va nous partager particulièrement sur le fait d'être opprimé, insulté, calomnié, persécuté. Alors évidemment, quand on dit ça comme ça, ça peut sembler un peu bizarre parce que comment est-ce qu'on peut penser, enfin je veux dire, le fait d'être un enfant de Dieu. Eh bien, on se dit, mais enfin, Dieu prend soin de moi, tout doit aller bien pour moi. Enfin, comment est-ce que je peux penser que eh bien, Dieu va permettre que je sois opprimé, insulté, calomnié ou persécuté? Alors, je vous disais, quand on a commencé tous ces enseignements sur le sermon sur la montagne, et que en fait, c'est cet enseignement que Jésus laisse à ses disciples, eh bien, c'est les bases, en quelque sorte, du royaume de Dieu que nous sommes amenés à vivre alors que nous sommes sur cette terre. Donc précédemment, bon, on a vu tout un certain nombre d'éléments et qui font partie effectivement de notre vécu en tant que fils et filles du royaume de Dieu, mais aussi, eh bien, voilà, c'est peut-être un peu bizarre comme ça, mais on va voir ce matin le fait que, eh bien, c'est aussi cette réalité qui est là. Être chrétien, il y avait ce petit chant qui disait « Être chrétien, ce n'est pas toujours rose ». Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que eh bien, je ne vais pas subir un certain nombre de choses désagréables dans ma vie. Alors, on va voir quand même que malgré ces choses désagréables, mais Dieu est toujours là, il ne nous abandonnera jamais. C'est vrai, quand, par exemple, ce mardi, ben, on a prié, je prends un exemple hein, pour Mohamed, hein, qui est persécuté, eh bien, oui, c'est une réalité, il est persécuté, et pourtant, c'est un enfant de Dieu. Alors, dans notre vie de tous les jours, effectivement, nous aussi, c'est peut-être, je vais dire ça comme ça, hein, mais voilà, être persécuté, ben, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de l'enfant de Dieu. Alors, on va tout de suite lire le texte de Matthieu 5, versets 10 à 12. Alors, ce texte nous dit ceci. Donc, « Heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande, car le royaume des cieux leur est réservé. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront, vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte, parce que vous êtes mes disciples. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux parce qu'une récompense magnifique vous attend dans les cieux. Vous êtes dans la lignée de vos devanciers, les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés de la même manière. Amen. » Donc voilà ce que Jésus, et ce qu'on va voir ce matin, ce que Jésus enseigne sur le fait de faire partie du royaume de Dieu, un des fondements, enfin un des éléments, enfin quand je dis un des éléments, on voit que dans ce texte il y en a plusieurs d'ailleurs, mais on va les voir ensemble, eh bien qui font partie de notre vie, en tout cas qui peuvent faire partie de notre vie, nous qui sommes enfants de Dieu. Et donc dans ce texte, eh bien il y a sept éléments. Il y a sept éléments dans ce verset qui nous sont donnés. Donc premièrement, Jésus commence toujours hein, au niveau des choses qui nous a été données, eh bien, par le fait qu'il nous dit que nous sommes heureux quand ce qui suit eh bien, est dans notre vie. Alors, heureux, je vous rappelle ce terme makarios, hein, qui est en fait où Dieu, Jésus est en train de dire eh bien, nous sommes bénis de Dieu. Nous sommes, nous recevons de Dieu la bénédiction quand ce qui va suivre eh bien, fait partie de notre vie. Alors, heureux, eh bien, heureux quand, enfin, c'est bizarre, hein, enfin, je veux dire, pour nous, dans notre humanité, bon, c'est possible, quoi. Ben oui, enfin, Jésus dit heureux, opprimé, persécuté, insulté, calomnié, ça, c'est les quatre éléments, on va dire, négatifs, mais Jésus va dire aussi que quand ça se passe, eh bien, voilà, il faut se réjouir. Il faut être heureux, mais là c'est le terme grec est différent. Hein. En français c'est le même mot que le premier élément, mais en réalité là ce mot heureux veut dire autre chose. Je vais vous l'expliquer après. Hein. En grec c'est agaliao. Et puis aussi le dernier élément que Jésus va dire par rapport à cette partie, eh bien c'est qu'on est récompensé. Donc je reprends. Hein. Heureux, donc béni de Dieu. alors qu'on est opprimé, persécuté, insulté, calomnié, eh bien, il y a quelque chose qui se passe en nous malgré tout, c'est qu'on est réjoui, qu'on est heureux, et il y a aussi cette récompense qui est là promise. Alors, pourquoi pouvons-nous être, nous, en tant qu'enfants de Dieu, détestés et persécutés ? D'ailleurs, c'est des choses que nous, certainement, vous avez déjà été confrontés à cela. Mais encore une fois, je répète, hein, Jésus, il y a 2000 ans déjà, nous le disait, c'est pas étonnant. Pourquoi est-ce qu'on peut être, nous, enfants de Dieu, détestés et persécutés ? Eh bien, Jésus va le dire, par exemple, dans Jean 15, il va dire « Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Si le monde vous déteste, rappelez-vous qu'il m'a poursuivi avant vous de sa haine. Si vous faisiez partie du monde, il serait plein d'amabilité pour vous, car le monde aime ce qui est à lui. Mais voilà, vous n'appartenez plus au monde, puisqu'en vous choisissant, je vous ai retiré du monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit une fois. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, eh bien, ils vous persécuteront vous aussi. Puisqu'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais ils vous traiteront ainsi à cause de moi, parce que vous portez mon nom. Ils le feront parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Amen. Voilà, Jésus, là, est en train de donner une certaine explication, en tout cas, au fait que, eh bien, on sera persécuté, détesté dans notre société. Eh bien, oui. En fait, ce que Jésus dit ici, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit étonné, parce que, eh bien, déjà, enfin, on le sait tous, hein, bien sûr, d'ailleurs, on a vécu Pâques dernièrement, eh bien, Jésus dit ici, voilà, vous portez mon nom. Ils m'ont traité, ils m'ont persécuté parce que je suis Jésus, le Dieu d'amour. Eh bien, ils vous persécuteront aussi parce que vous êtes mes enfants, vous faites partie de ma famille. Et il dit, au verset 19, on l'a lu, hein, il dit, mais voilà, une des raisons pour laquelle vous êtes persécutés, eh bien, c'est aussi parce que on n'appartient plus au monde, on n'a pas la mentalité du monde. Et ne pas avoir la mentalité du monde, eh bien, va déranger. Pourtant, alors que Jésus était sur cette terre, pourquoi on l'a persécuté ? Est-ce qu'il avait fait quelque chose de mal ? Est-ce qu'il avait montré de la haine envers quelqu'un ? Jésus, alors qu'il était sur cette terre, n'a fait que du bien autour de lui. Alors qu'il était sur cette terre, il a guéri les malades, il a apporté l'amour de Dieu, il n'a fait que du bien, et vous le savez bien, vous qui lisez la Bible, Dieu a été haï, Jésus a été haï, on l'a haï. Eh bien, Jésus dit ici quand même quelque chose d'essentiel, c'est que je ne fais plus, moi qui suis enfant de Dieu aujourd'hui, je ne suis plus dans la mentalité du monde. Alors, quand Jésus dit ici dans ce verset, je vous ai retiré du monde, c'est pourquoi le monde vous déteste, ça ne veut pas dire qu'on est, c'est pas qu'on ne vit pas sur terre, hein, vous le savez bien, d'ailleurs, notre parole de Jésus va dire que, on est appelé, on n'est que des étrangers sur cette terre, mais on est sur cette terre. Eh bien, en tout cas, ce que Jésus dit ici, c'est que effectivement, nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien, on ne ressemble pas au monde. C'est une des raisons. Alors, même si nous, mais je crois que c'est notre cas, en tout cas, je l'espère, c'est que vous êtes ceux et celles qui on fait du bien autour de nous, on ne veut pas faire le mal autour de nous. Eh bien, malgré cela, parce qu'on a la mentalité, parce que Dieu met en nous, et c'est une bonne chose pour nous. Hein, Dieu vient nous transformer, vient changer nos pensées, il vient changer notre mentalité. Pourquoi ? Parce qu'il vient faire vivre, faire grandir en nous cette nouvelle nature, hein, celle qui est effectivement tellement différente de notre nature adamique, de notre ancienne nature, celle que nous devons faire mourir. Parce que bien sûr qu'elle est toujours là, puis l'apôtre Paul dit qu'on doit la faire mourir tous les jours. Mais voilà. En tout cas, faire mourir cette nature adamique, eh bien, va produire comme effet, premièrement, de laisser vivre en moi cette nature divine qui va grandir jour après jour, mais aussi, elle va produire le fait que jour après jour, eh bien, je vais devenir un peu plus différent de ce que ce monde est. Et ma différence, vous savez bien, la différence, eh bien, être différent attire la haine des autres. Donc, pourquoi est-ce qu'on... C'est normal, on va dire comme ça, hein. Je ne dis pas que c'est normal dans l'absolu, Ce n'est pas normal dans l'absolu qu'on persécute ceux qui font du bien, mais c'est normal dans la pensée humaine, enfin, en tout cas, ça semble normal pour ceux qui vivent cela, de persécuter ceux qui sont différents et de faire du bien. Alors, bien sûr, ce n'est pas notre cas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne veut pas rejeter ceux qui sont différents, au contraire, on veut les aimer. Eh bien, on va voir ce que Dieu en dit encore. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on est persécuté qu'on est découragé, parce que de toute façon, on ne sera jamais tout seul. Donc, au travers de la persécution, au travers des difficultés que nous sommes amenés à vivre, Dieu sera toujours avec nous. Et Paul va dire dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 7 à 11, il va dire ceci, « Cet évangile est un trésor précieux. » Cet évangile, alors, je le dis, cet évangile, c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Chacun d'entre nous, nous qui sommes enfants de Dieu, bien sûr. Cet évangile est le trésor précieux qui nous a été confié. Alors, certes, nous portons ce trésor dans des vases de terre cuite, mais il faut qu'il en soit ainsi. Cela prouve avec évidence que cette incomparable puissance vient de Dieu et non pas de nous. Cette puissance, nous l'expérimentons dans nos vies en même temps que la fragilité des vases qui la contiennent, traqués et opprimés de tous côtés et cependant jamais subjugués par la paix. Fréquemment désemparés, mais jamais découragés. Souvent, nous sommes perplexes et ne savons plus quel chemin prendre, mais nous ne nous abandonnons pas. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais non le désespoir. Voilà ce que vivait l'apôtre Paul. Et voilà ce qu'il disait de sa vie d'enfant de Dieu. Mais enfin, ce que disait l'apôtre Paul là, quelque part, on n'est pas différent finalement de l'apôtre Paul. On est aussi, nous, des enfants de Dieu. Et dans ce qu'il est en train de dire ici, il dit quelque chose de précieux dans ce texte. Premièrement, il se compare et il nous compare à des vases de terre, c'est-à-dire pas quelque chose de très précieux en réalité, avec le vase de terre, avec ses faiblesses, avec ses limites, qui fait la différence avec la puissance et la gloire de Dieu. Mais ce que va dire Paul ici, c'est que justement, cette puissance, on va l'expérimenter dans notre vie en réalisant notre faiblesse et notre fragilité. Et parce que c'est la puissance de Dieu en nous, c'est la vie de Dieu en nous qui permet que malgré le fait d'être persécuté, malgré le fait que, on peut quelquefois d'ailleurs éprouver de la peur, comme le dit l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul, encore une fois, il a été plusieurs fois lapidé, vous savez ce que c'est être lapidé, mais alors en tout cas, jamais, l'apôtre doit dire, mais jamais j'ai été subjugué par la... Jamais j'ai été découragé malgré tout ce qui m'arrivait. Eh bien, frères et sœurs, c'est une réalité. Ça, c'est un vécu. L'apôtre Paul l'a vécu, avec la puissance de Dieu, avec la vie de Dieu en nous, on veut le vivre aussi. Ça, encore une fois, je vous répète, bien sûr que la persécution, ce qu'on a vu dans ce texte que Jésus nous a laissé, c'est une réalité. Vous voulez faire du bien, on vous fera du mal, mais ne nous laissons en tout cas jamais décourager parce qu'on peut s'appuyer sur la puissance de Dieu. On peut, quand on est découragé on est sur un chemin de découragement, venir au Seigneur et puis se laisser fortifier. En tout cas, c'est ce que l'apôtre Paul a vécu et c'est ce que nous sommes appelés à vivre nous aussi. Alors, dans ce texte d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit lui-même, il dit quelquefois, je suis totalement désemparé face à ce qui... Pourquoi on me fait du mal? Moi qui fais du bien autour de moi. Il dit, fréquemment désemparé, mais finalement quand même, par la grâce de Dieu, jamais découragé. Et ça, j'aimerais que ce soit d'ailleurs pour nous aussi un encouragement, de savoir qu'on n'est pas les seuls à être quelquefois méprisés pour notre foi, à être persécuté pour notre foi, à être rejeté à cause de notre foi, nous qui ne faisons aucun mal autour de nous, nous qui voulons aimer ceux qui nous entourent, c'est des choses qui arrivent, et comme le disait Jésus dans ce texte qu'on a lu tout à l'heure, parce que ça lui est arrivé, le monde lui a fait cela, le monde nous le fera. En tout cas, Paul va dire quelque chose de fort ici, malgré tout cela, jamais nous n'abandonnons. L'apôtre Paul n'a jamais abandonné, persécuté, mais pas découragé. On continue, on n'abandonne pas. Parce que de toute façon, on n'est pas abandonné. On nous persécute, mais nous ne nous sentons pas délaissés. Jésus notre Seigneur sera toujours avec nous. Nous sommes jetés à terre, mais nous nous relevons et poursuivons notre route. Oui, partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mise à mort que Jésus endurait, mais c'est pour que la vie à laquelle il fut ressuscité apparaisse, elle aussi, manifestement dans ce corps. Tout au long de notre vie, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus transparaisse aussi au travers de notre corps mort. Alors là encore, Paul va mettre l'accent sur quelque chose qui est vrai, mais aussi qui a une importance. Tout à l'heure, à la diapo précédente, Paul se comparait à ce vase de terre, et puis ici d'ailleurs pourquoi. Il dit voilà, si nous sommes des vases de terre, si nous sommes là avec nos limites, si nous subissons dans notre corps la mise à la mort, comme il le dit ici dans ce texte, mais savoir que Jésus lui aussi l'a enduré, mais c'est pour que la vie qui est en Jésus, elle aussi, elle se manifeste dans notre... Ça paraît un peu peut-être particulier, bizarre, peut-être que dans notre pensée humaine, on se dirait encore une fois, comme je disais tout à l'heure, mais quand même, c'est nous qui sommes enfants de Dieu, encore une fois, pourquoi est-ce que Dieu ne nous protège pas, entre guillemets ? L'idée, bien sûr que Dieu prend soin de nous, mais quelque part, cette persécution, et on va le voir après, mais ces persécutions, eh bien, finalement, nous font du bien. On va en parler. En tout cas, ici, l'apôtre Paul dit que c'est une normalité, finalement, parce que ça permet que être persécuté, vivre la mise à mort de notre corps, eh bien, permet que la vie, de la même façon que Jésus est mort et ressuscité, eh bien, finalement, elle nous aide, dans un certain sens, à faire mourir notre nature charnelle pour faire vivre la vie de Jésus en chacun de nous, eh bien, cette nouvelle naissance qui nous fait grandir et qui change notre vie. Alors, oui, nous sommes persécutés, mais on n'est jamais abandonné, Dieu est toujours avec nous. Alors, qu'est-ce qui se passe, justement? Quelle est la réalité? Comment on vit au travers de la persécution? Dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, versets 11 à 13, voilà ce que Paul va dire. Insulté, eh bien, si le jour où quand je suis insulté, peut-être ça vous est déjà arrivé, certainement, eh bien, humainement parlant, si on m'insulte, eh bien, j'ai peut-être tendance à répondre moi aussi avec l'insulte. Mais ce n'est pas le cas des autres. Quand on est insulté, eh bien, on répond en bénissant. Alors, je lis ce texte. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim et la soif. Nous manquons d'habits convenables. Nous sommes exposés aux coups, considérés comme des vagabonds, maltraités, errant de lieu en lieu, sans foyer, sans patrie. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains pour gagner notre pain quotidien. On nous insulte ? Eh bien, nous répliquons par des bénédictions. Voilà, frères et sœurs, ça doit faire partie de notre vie. En tout cas, c'est ce qu'on vit quand on fait partie du royaume de Dieu. Et je vous rappelle encore une fois, ce royaume de Dieu, eh bien, nous sommes appelés à le vivre alors que nous sommes ici. Quand je lis ce texte, frères et sœurs, je ne sais pas si c'est... Certainement, ça vous arrive d'être insulté, mais d'être insulté parce que vous êtes un enfant de Dieu. Eh bien, en lisant ce texte, je ne me suis pas empêché de penser à notre frère Mohamed, parce que lui, il vit cette réalité-là, en tout cas. Eh bien, nous, on souffre peut-être pas de la faim, de la soif. Peut-être qu'on a la possibilité de s'habiller, on n'a pas des coups, mais en tout cas, frères et sœurs, même quand on est dans cette situation-là, eh bien, quand on nous insulte, on réplique par la bénédiction. Ça, c'est... Et même si nous, on n'est pas dans ce cas-là aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour ça arrivera, eh bien, quand on nous insulte, eh bien, on veut répliquer par des bénédictions. Je bénis. On l'a déjà vu au travers des paroles précédentes, mais ça, c'est vraiment la réalité du royaume de Dieu. Nous qui vivons dans le royaume de Dieu, c'est ce que nous pratiquons. Eh bien, quand nous sommes calomniés, eh bien, nous répondons avec bonté. On nous persécute, nous l'endurons en silence et avec patience. Je crois que d'ailleurs, sans la grâce de Dieu dans notre vie, je crois que ce serait difficile quand même. Mais voilà, avec la grâce de Dieu, ce qui est difficile devient possible. Quand la vie de Dieu descend dans nos vies, quand on laisse l'Esprit de Dieu transformer nos cœurs, nos pensées, notre être, eh bien, là où on n'est pas capable, eh bien, Dieu nous rend. On nous persécute, eh bien, nous l'endurons avec silence, avec patience. On nous accable d'injures et de calomnies, eh bien, nous répondrons par des paroles bienveillantes. Wow. on traîne notre réputation dans la boue, eh bien nous prions pour nos calomniateurs et nous essayons de les gagner à Christ. Jusqu'à maintenant, nous sommes considérés comme des ordures du monde et traités comme le rebut de l'univers. Ça, c'est ce qui se passe, peut-être pas tant quand même dans notre pays, encore que. Mais en tout cas, c'est une réalité concrète dans beaucoup d'endroits. Dans ce... Frères et sœurs, encore une fois, on voit là, on reconnaît à travers de l'attitude ici de l'apôtre Paul, le vécu véritable du royaume de Dieu. Je reprends le texte qu'on a lu tout à l'heure. Hein. Enfin, en tout cas, quand on dit du mal de nous, eh bien, on répond avec bonté. Quand on nous calomnie, eh bien, on répond avec des paroles bienveillantes. On prie pour nos calomniateurs. C'est ça, est-ce que c'est ce que nous faisons? Mais c'est le sens des paroles de Jésus, en tout cas, dans ce sermon sur la montagne. Et quand il nous parle que nous sommes persécutés, que nous sommes calomniés, eh bien, Jésus veut aussi attirer notre attention que c'est une réalité normale, encore une fois. Enfin, normale. Enfin, voilà, à cause du monde, à cause de notre société, à cause de l'esprit du prince de ce monde, d'ailleurs, eh bien, c'est cette réalité. Mais nous sommes, encore une fois, différents du monde. Et donc, même s'il y a cette normalité quelque part où on va être donc persécuté, calomnié, insulté, eh bien opprimé même, eh bien en tout cas, notre réponse, notre attitude, elle doit être cette attitude qui est conforme à la pensée, et à l'exemple en tout cas que nous a laissé concrètement, effectivement, eh bien quand on nous injurie, eh bien on répond avec des paroles bienveillantes. Il y a en nous... La bonté de Christ doit s'exprimer à travers de ce que nous sommes, parce que nous sommes des enfants. Eh bien, je pense d'ailleurs que c'est là aussi où nous-mêmes, on peut se reconnaître en tant qu'enfant. Comment est-ce que je réagis? Eh bien, frères et sœurs, si on n'est pas comme l'apôtre Paul ici le décrit, eh bien, certainement qu'on a besoin de venir au pied du Seigneur et puis dire, Seigneur, viens, on continue à faire ton œuvre en moi, parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce. Moi, je veux vivre le royaume de Dieu. Non, je continue. Parce que Jésus et la parole de Dieu, Jésus tout à l'heure nous parlait de cette notion de récompense. Hein, tout à l'heure, je vous remettrai ce texte de Matthieu, mais en tout cas, on a des récompenses qui nous sont données déjà alors que nous sommes sur cette terre. Ici, Jacques va dire, mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations, estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie par. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Ça, c'est déjà une des récompenses que, le fait de vivre le royaume de Dieu nous amène. Jacques va dire, elles seront les épreuves parce que je suis éprouvé. Et lorsque je suis éprouvé, parce que je suis un enfant de Dieu. Alors bien sûr, ouais, je l'ai peut-être pas dit, mais quand Jésus dit toutes ces paroles que nous avons lues tout à l'heure dans Matthieu 5, il ne nous parle pas des persécutions pour des choses qu'on aurait fait de mal. Je veux dire, si je fais du mal à quelqu'un, je reçois, peut-être je suis calomnié, mais si je suis un voleur, par exemple, je ne suis pas dans l'ordre de Dieu déjà. Eh bien, c'est normal que je reçoive le courroux de mon prochain, plutôt pas d'un voleur. Eh bien, mais là, dans ce que Jésus enseigne là, c'est d'ailleurs, on le relira tout à l'heure, je vais le reprendre ce texte, mais c'est tout le contexte, c'est être persécuté parce que je suis un enfant de Dieu, persécuté parce que je fais le bien en tant qu'enfant de Dieu autour de moi. C'est ça l'idée, bien sûr. Et là, donc Jacques va dire qu'on doit se réjouir lorsqu'on passe par des épreuves ou des tentations, parce qu'elles seront pour nous l'occasion d'accepter. L'apôtre Paul le disait aussi. C'est une joie pour lui de savoir qu'il est persécuté parce qu'il fait la volonté de Dieu. Alors ça, c'est quelque chose qui se passe, c'est quelque chose qui vient dans nos cœurs et dans notre vie aussi par l'action du Saint-Esprit. Le Seigneur ne nous laissera jamais seuls. Et effectivement, ce que dit Jacques ici, il ne le dit pas comme ça en l'air. Il dit parce que c'est une réalité, parce que c'est quelque chose qu'il a pu vivre. Il a pu vivre le fait qu'au travers de la persécution, eh bien, d'accéder à cette... Ça, c'est déjà une première récompense que Dieu nous donne. Il nous donne la possibilité d'être heureux Enfin, il fait en, enfin, oui, son œuvre en nous nous permet d'être heureux malgré la persécution. C'est quelque chose qui dépasse notre intelligence humaine, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est la réalité. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que, comme il est dit ici, eh bien, alors que je reste ferme dans ma foi malgré la persécution, malgré les épreuves, eh bien, ça développe en moi, enfin, la grâce de Dieu va faire que je vais devenir de plus en plus. Et ça aussi, quelque part, c'est une récompense. Ensuite, je continue ce verset, hein, mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste ainsi dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Ainsi, vous deviendrez irréprochable et ne vous manquera rien. Alors, encore une fois, si je regarde ce texte avec la notion de mon humanité ou de ma nature adamique, je me dis, ça, c'est pas vrai. Voilà, je suis persécuté à cause de ma foi, je suis persécuté parce que je suis différent du monde, parce que je fais bien autour de moi, eh bien, voilà, c'est pas normal. Mais ce que dit Jacques ici, pourtant, est d'une réalité véritable. Moi, je le prends comme vraiment une récompense. C'est que avec la grâce de Dieu, quand je fais ce choix hein, de vivre le royaume de Dieu, quand je fais ce choix d'accepter, malgré la souffrance de la persécution ou la difficulté de la tentation, et puis quand je tiens ferme, avec la grâce de Dieu, eh bien, il y a une chose qui se passe, c'est que je suis en train de grandir dans cette notion d'enfant de Dieu. Je grandis et puis je deviens irréprochable, c'est-à-dire que jour après jour, eh bien, je ressemble davantage à mon Seigneur, à mon Sauveur. Je suis, comme dit un autre texte, on grandit dans la sainteté de jour en jour, de plus en plus saint. Eh bien, c'est ce qui se passe, mais c'est une grâce. On reflète le royaume de Dieu avec l'aide du Seigneur. Alors, dans Marc chapitre 10, il nous est dit aussi, parce que Jésus est là avec ses disciples et Pierre fait remarquer à Jésus, donc il parle que bien sûr, ils ont tout abandonné. Jésus dit qu'on doit abandonner, notre adamique d'ailleurs, il faut l'abandonner. Et Pierre fait remarquer, tu sais, nous on a tout laissé pour te suivre. Et Jésus va lui dire, c'est vrai, mais je vous le promets, personne n'aura quitté maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre à cause de moi. Encore une fois, hein, c'est la condition, c'est à cause de moi, à cause de notre foi en Jésus et de la bonne nouvelle. Eh bien, si cela arrive, eh bien, en tout cas, Jésus va dire ici que nous allons recevoir 100 fois plus à partir de maintenant, alors que nous sommes en train de vivre sur cette terre. Mais, en tout cas, on reçoit cette famille. On est dans la famille de Dieu. On est dans le vécu de la famille de Dieu. Eh bien, non seulement on reçoit cela alors que sur cette terre, mais Jésus va dire que ça va se rejaillir jusque dans la vie éternelle. Et encore une fois, eh bien, sauf si, sauf si pour moi, être un enfant de Dieu jusque dans la vie éternelle, ça ne m'intéresse pas, eh bien alors je fais ce que je veux, puis comme le monde, quoi. Mais si je veux vivre en tant qu'enfant, si je veux vivre les enseignements de Jésus, si je veux vivre le royaume de Dieu, déjà ici-bas sur terre, eh bien, ce royaume de Dieu, je vais le vivre jusque dans l'éternité. Inversement, si je ne suis pas prêt à accepter la persécution, la souffrance, etc., parce que je suis un enfant de Dieu, eh bien, je ne serai pas non plus celui qui fera vraiment partie de cette famille de Dieu, du royaume de Dieu, alors que je suis sur cette terre, mais qui ne fera pas non plus partie du royaume de Dieu, qui va se prolonger, bien sûr, jusque dans la vie. Alors, voilà ce que dit dans l'Apocalypse au chapitre 2. Jésus va dire cela, parce que c'est Jésus qui parle, et il va dire de l'église de Smyrne la chose suivante. Alors l'église de Smyrne, juste avant ce verset, les versets 10 et 11, Jésus va donner les caractéristiques de l'église de Smyrne en disant, voilà, t'es une église, je connais tes œuvres, ta pauvreté, et ta faiblesse, mais pourtant, malgré ce qui apparaît, tu es riche. Et il va dire à cette église, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voilà, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez 10 jours de détresse, mais sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne. Et il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde. Frères et sœurs, ne redoutons pas d'être persécutés, d'être opprimés pour notre foi. Hein. Toujours pareil, hein. Je vais retourner sur le texte, sur ce texte qui est notre base pour ce matin. Hein. Heureux ceux qui sont opprimés, je l'ai souligné, pour avoir fait ce que Dieu demande. Ça, c'est notre volonté. Je peux être opprimé pour autre chose, ou opprimé encore, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que je ne suis pas quelqu'un de bien. Ce n'est pas de ça que par Jésus. Opprimé pour avoir fait ce que Dieu demande, parce que nous faisons partie du royaume. Alors, heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront, quand ils vous persécuteront, quand ils répondront sur vous toutes sortes de calomnies. Réjouissez-vous, soyez heureux. Alors, je vous disais tout à l'heure que je vous avais fait apparaître que le mot heureux ici est différent de, enfin, heureux du verset 5 et puis, heureux du verset 10 et puis le heureux du verset 12, c'est deux mots différents dans le grec. Hein, et encore une fois, je répète, le premier heureux, eh bien, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les versets précédents, hein, c'est le fait qu'on est béni de Dieu. Et puis, mais le heureux du verset 12, donc réjouissez-vous et soyez heureux, c'est cette joie qui est notre joie intérieure. Et là, Dieu, enfin, dans ce verset, il nous a parlé des sentiments qu'on peut éprouver. Alors, ça paraît bizarre, mais pourtant, c'est ce que Jésus dit, et je crois que beaucoup, en tout cas, ont pu le réaliser. Alors que, justement, cet esprit de Dieu vit en nous, eh bien, être persécuté n'est pas une... comment je veux dire ça? Ce n'est pas qu'on est des masochistes, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, je ne suis pas maso. Et je ne crois pas que les enfants de Dieu cherchent à être persécutés ou à souffrir. Mais quand ça arrive, notre joie parfaite, alors, si je prends le mot grec, justement, eh bien, la signification, hein, je vais vous donner une définition, c'est exulter, se réjouir fortement, être extrêmement heureux. Voilà ce que dit Jésus. Et enfin, s'il le dit, mais c'est vrai aussi, d'ailleurs, on l'a vu au travers de ce que disait. Maintenant, je reviens, je vais conclure pour ces éléments que je suis en train de vous parler ce matin. Eh bien, voilà ce que je dis dans ma conclusion. Bizarrement, la société n'aime pas l'amour agapé. Agapé, vous savez, c'est bien sûr l'amour qui nous est donné par divin, nous sommes appelés à vivre. Hein. Mais la société n'aime pas l'amour agapé, ben, c'est bizarre, pourtant elle fait du bien, enfin, cet amour agapé nous fait du bien. Eh bien, cette société opprime, calomnie et même persécute ceux qui pratiquent cet amour envers notre prochain. Alors il ne faut pas s'en étonner. Pourquoi ? Ben, parce que le prince de ce monde qui a voulu tuer l'amour de Dieu en crucifiant Jésus, mais il n'a pas changé. Jésus est toujours le même, enfin, Dieu ne change pas, mais Satan, enfin, dans sa méchanceté, ne change pas. De la même façon qu'il a voulu faire mourir Jésus, eh bien, il veut détruire cet amour qui vit en nous. Alors, ben, pour faire ça, bien, il l'essaie aussi en nous persécutant. Alors, c'est ce que je dis, mais en voulant détruire les enfants de Dieu, mais finalement, c'est le contraire qui se produit. Comme le dit Paul aux Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 11, tout au long de notre vie, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus transparaisse aussi à travers notre corps mort. Satan, en voulant détruire cet amour de Dieu en nous, eh bien, peut-être que ça marche pour certains, mais en tout cas, pour celui qui demeure fidèle, eh bien, ce qui se produit, c'est que la réalité de la vie de Jésus, eh bien, elle s'implante de plus en plus dans notre cœur, dans notre être, et puis finalement, eh bien, c'est la vie de Jésus qui est proclamée au travers de ce que nous sommes, et eh bien aussi au travers des exemples qui nous ont été laissés par l'apôtre Paul, que j'assure, quand je suis persécuté, eh bien, quand on me maudit, ben, moi je bénis, quand on me calomnie, moi je prie pour mes calomniateurs, etc., etc. Par exemple, il n'y a pas que ça, hein, mais ça c'est le Saint-Esprit qui agit. Alors, mais bizarrement aussi, les persécutions en nous procurent une joie parfaite, comme je vous l'ai expliqué. Elle procure de l'endurance dans notre foi. Elle vient construire. Enfin, la persécution, Satan veut nous détruire, mais finalement, par la grâce de Dieu, par le fait que l'Esprit de Dieu travaille en nous, eh bien, elle construit une endurance, l'endurance dans notre foi. Elle nous fait grandir spirituellement jusqu'à nous rendre irréprochables. Elle nous offre une place dans la famille de Dieu. Puisque éternellement, ce n'est pas une place qui est limitée à notre vie sur terre, mais si je fais partie vraiment de la famille de Dieu alors que je suis sur cette terre, eh bien, je fais partie de la famille de Dieu. Eh bien, notre fidélité, malgré les preuves et les persécutions, cette fidélité va permettre, comme on l'a vu dans ce texte de l'Apocalypse, eh bien, l'obtention de la couronne. Ma fidélité, malgré les persécutions, eh bien, va me donner ce cadeau incroyable d'échapper à la seconde mort. Ça, je reprends le terme de l'Apocalypse, mais je crois que vous savez tous ce que je veux. Celui qui échappe à la seconde mort, c'est celui qui est sauvé, il fait partie, encore une fois, de cette famille de Dieu qui va rejoindre, qui sera pas partie de ceux qui seront enlevés. Eh bien, voilà ce que Dieu fait avec ses enfants, et voilà pourquoi Jésus, dans ce texte de sermon, dans ce sermon sur la montagne, va nous parler des persécutions, d'être opprimé, d'être insulté, d'être calomnié. Frères et sœurs, quand cela arrive, parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je pratique le bien, eh bien, réjouissez-vous, parce que ça prouve que vous faites partie et que vous avez l'obtention de cette couronne de vie, parce que vous allez être fidèle jusqu'au bout. Eh bien, voilà. Voilà ce que Jésus voulait dire, mais je vous rappelle, frères et sœurs, et j'arrête là-dessus, eh bien, que ce sermon sur la montagne, eh bien, c'est la pratique du royaume. Ce sont des bases pratiques de ce qui arrive quand nous vivons le royaume de Dieu, qui sommes ces enfants de Dieu. Alors,